Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Nous ne pouvons pas voir un invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors, nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire au niveau de son évolution.
Vous nous avez dit dans l'entrevue que par le corps éthérique, on joue dans le temps. Les extraterrestres ont un corps éthérique très développé qu'ils contrôlent, jouent dans le temps. Savent-ils que c'est finalement, inévitablement, ce qui doit se produire? C'est-à-dire cet affrontement entre les deux grandes civilisations?
Les extraterrestres savent exactement ce qui se passe sur la planète. Tous les événements de la planète s'enregistrent. Les extraterrestres se maintiennent dans l'invisibilité de l'éther et ils enregistrent tout ce qu'ils ont de besoin. Vous savez que sur la planète Terre, l'homme a des cerveaux électroniques. Les extraterrestres ont aussi des cerveaux, mais ce ne sont pas des cerveaux électroniques. Ils ne fonctionnent pas, leur science ne fonctionne pas sur le même principe. La science extraterrestre, elle est fondée sur le principe de l'organisation intelligente de la lumière, sur le plan de l'éthérique. Alors, si un extraterrestre ou une civilisation quelconque veut savoir ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine de l'armement, si elle veut savoir ce qui se passe en Russie dans le domaine de l'armement, il se situe dans l'éthérique. Et tous les événements qui se passent dans la matière sont enregistrés par le biais de l'éthérique et entrent dans leur cerveau. L'éther est la mémoire. L'éther est un plan d'énergie qui absorbe tous les événements matériels. Et c'est à partir de l'éther que prennent cette information et que cette information est canalisée dans leur cerveau. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM. Parce que la machine IBM, sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé, il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme, et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique.
Par le biais de la lumière.
Par le biais de la lumière.
Maintenant, on sait qu'en 1952, il y a eu ce qu'on a appelé, nous, le carousel de Washington. En juillet 52, à l'époque d'Eisenhower, président des États-Unis, ils ont vu là, pendant plusieurs nuits de suite, des dizaines et des dizaines de soucoupes volantes. Et ça, c'est vérifiable, et c'est à la portée de tous, d'ailleurs. Donc, des autorités politiques, économiques, militaires, savent que ça existe. Y a-t-il une complicité du silence, et y a-t-il une complicité de la connaissance souterraine, underground, avec l'évolution, les événements? Je pense à Camp David pour éviter que Israël entreprenne une guerre avec l'Égypte, où ça aurait été finalement, derrière ça, la Russie et les États-Unis. Que Pologne, actuellement, où la tension est rendue à un point culminant, fasse qu'encore une fois, underground, par en dessous, les autorités humaines soient conseillées très directement pour éviter des faux pas. Et alors, je vais jusqu'à l'extrême de ce raisonnement. Ça pourrait-il que ces autorités-là se fassent guider suffisamment pour éviter les faux pas ou même provoquer certains faux pas, comme à l'époque avec Adolf Hitler qui a eu un grand faux pas qui a amené l'humanité sur le bord d'un abîme. Jusqu'où, justement, là? Vous voyez très bien l'ampleur de la question. Et les gens disent, s'ils sont si intelligents, ils sont capables de nous hypnotiser collectivement, ils sont capables de nous faire ce qu'ils veulent bien. Et tous les extraterrestres, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est peut-être pour ça qu'on est peut-être les seuls ici sur le Canal 9 à en parler aussi profondément de ça, de ce sujet. Ça va très loin.
Le concept de la complicité du silence, la complicité du silence, c'est un concept purement humain. Moi, je crois, d'ailleurs, je connais des gens qui sont dans les systèmes, si vous voulez. Et le problème avec l'homme, ce n'est pas qu'il essaie de cacher la vérité, c'est que l'homme n'est pas capable de la sortir. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas qu'il cache la vérité, ce n'est pas que... D'ailleurs, vous prenez le président qui a précédé Reagan. Il a admis en public qu'il a vu un OVNI en 62, ça a été enregistré à Georgia et tout ça. Il a même demandé à la NASA de sortir l'information, tout ça. Et la NASA lui a répondu qu'on n'avait pas de méthodologie scientifique pour étudier le phénomène. Mais le problème de la Terre n'est pas un problème de cache-cache. Ce n'est pas au niveau des affaires de l'homme, oui, que le gouvernement cache des choses sur le plan de l'expérience humaine, oui. Mais il n'y a personne d'assez puissant dans le gouvernement qui puisse, par lui seul, commander que se fasse le jour sur ces choses, parce que, psychologiquement, ce personnage perdrait sa crédibilité. Alors, ce n'est pas le président d'un peuple ou le premier ministre d'un peuple ou l'attaché militaire d'une nation qui est responsable, ipso facto, de cette complicité du silence, ce sont les hommes. C'est l'humanité entière qui est complice du silence. Et la preuve, c'est que vous allez dans la rue et que vous parlez des extraterrestres aux gens, on vous rit à la face. Alors, vous vous imaginez que le politicien est très conscient de ça, surtout ces gens-là. Alors, ce sont les hommes qui sont complices du silence. Qu'on cesse de rendre les politiciens ou les organismes internationaux responsables de la complicité du silence vis-à-vis des ovnis et qu'on commence à éduquer les masses. Et comme vous faites. Et lorsque les masses seront éduquées, à ce moment-là, automatiquement, les gouvernements suivront. Ce ne sera jamais l'opposé. Et s'il doit venir un jour où l'homme ou la masse entre en contact avec des ovnis, que ce soit à une échelle mondiale, que les masses gardent le silence ou que les gouvernements gardent le silence, ça ne changera rien parce que ce sera une explosion totale dans le monde. Alors d'ici à ce temps-là, que le peuple soit éduqué, qu'on éduque le peuple, que les gens qui sont dans la télévision ou à la radio éduquent d'une façon intelligente les masses, et à ce moment-là, les gouvernements, parce que les gouvernements fonctionnent toujours par un rapport barométrique avec les masses. Alors, si les masses vont dans une direction, les gouvernements sont les premiers à aller dans cette direction. Mais si les masses ont les œillères, c'est effectivement naturel que les gouvernements se refusent, surtout ceux qui sont seuls, ou deux ou trois dans des organismes, de dévoiler sur le plan public des informations qui retarderaient l'évolution, soit de leur politique ou de leur programme politique.
Justement, il y a des gens qui suivent l'émission de Richard Glenn, l'ésotérisme expérimental que vous voyez présentement, depuis 5 ans. Disent, comment se fait-il que, à cette émission-là, on donne des informations qu'on trouve nulle part ailleurs? Première question, pourquoi nous autres, ici, sur le câble, depuis 5 ans qu'on produit des émissions, on arrive à développer la chose d'une façon qui ne se fait nulle part ailleurs? Pourquoi ici, au Québec? Et je me souviendrai d'une chose, c'est que Bernard m'avait dit il y a quelques années, Glenn, t'es sur le câble, tu restes sur le câble, et dans quelques années, ton émission sera vue à travers la province de Québec. Il y a quelques années, Vidéotron était confiné à la rive sud de Montréal. On sait maintenant ce que représente le câble Vidéotron à travers toute la province. Alors pourquoi, ici au Québec, va-t-on si loin dans l'information? Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui suivent l'émission depuis 5 ans, et ils me disent, pourquoi on n'en voit pas de soucoupe volante? On est prêt, on en a entendu parler, tu nous en as montré des photographies, etc., etc. On est prêt.
Vous savez qu'une nation, c'est comme un homme. Une nation a une personnalité. Il y a des hommes qui sont amenables à certaines découvertes, qui sont amenables à pointer certaines vérités. Il y a des hommes qui sont fermés à ça. Alors, dans la province de Québec, c'est une province qui procède à la fois du génie technique des Américains et de la philosophie de l'Europe. C'est un peuple qui est très bien situé entre le géant et la vieille dame, et qui n'est pas influencé et qui ne cherche pas à être influencé, et qui repousse même l'influence rigide, fermée de l'anglo-saxon.
Un peu comme autrefois, la Palestine était à mi-chemin entre le géant de Rome et l'ancien peuple de l'Égypte.
Voilà. Et le Québec, de par ses prédispositions, de par ses dispositions, de par son caractère national, de par son isolation, de par sa fierté personnelle, de par sa façon de penser, permet que se fasse ce que vous faites.
Et l'énergie électrique, hydroélectrique, qui est au-dessus de la moyenne.
C'est juste. Alors, c'est une condition qui est là, et cette condition, elle est exploitée, et le génie de cette nation, qui devient de plus en plus reconnue, si vous voulez, doit se faire savoir, doit se faire valoir, parce que le Québec, c'est un petit gars de 18 ans. C'est un petit gars qui commence à aller à l'université. Et un petit gars qui commence à aller à l'université, c'est un petit gars qui commence à avoir à briser les, à rompre avec les anciennes frontières pour en découvrir de nouvelles. Alors, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la langue, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la puissance économique, quand il est isolé comme le Québec au niveau de la politique, il est obligé de se former des armes. Et son esprit devient vital, son esprit devient puissant, petit à petit, et il est plus ouvert à certaines choses. Et c'est pour ça, probablement, que à Québec, il y a une diffusion de l'ésotérisme à une échelle qui ne se fait pas dans le monde, sur un plan aussi organisé.
Il faut dire que, ici, au Québec, avec les moyens de communication, même comme le cadre, où l'émission est revue trois fois à tous les jours pendant 24 heures. Et c'est une des raisons pour lesquelles on préfère rester ici que d'aller à Radio-Canada, où l'émission dure peut-être une demi-heure, une fois par semaine, elle est répétée régulièrement.
Vous savez que dans ce domaine, dans le domaine de l'OVNI, dans le domaine de l'ésotérisme, soit que les gens qui travaillent avec vous aient l'ouverture d'esprit, qu'on vous donne le temps, ou qu'ils ne travaillent pas avec vous. Parce que dans le domaine de la pensée créative, dans ce domaine, on ne peut plus se laisser imposer des cadres rigides qui plaisent à tel ou à tel organisme pour des raisons de structuration psychologique du savoir qui doit pénétrer dans la masse. Soit que ça rentre dans la masse sans condition ou qu'on aille dans une autre direction. Et c'est essentiel parce que les temps viennent où les masses veulent savoir et ils ont droit de savoir. Et vous ne pouvez pas parler de ces choses à l'intérieur de 10 minutes ou de 15 minutes ou d'une demi-heure. Il faut qu'il y ait du temps.
Alors, la question, Bernard, c'est pourquoi ça vous est arrivé à vous? Pourquoi vous et ici au Québec encore une fois? Est-ce qu'il y en a d'autres comme vous dans le monde?
J'espère. Parce que plus il y aura de gens qui comprendront, plus il y aura de gens qui seront dans le supramental, plus il y aura de gens qui pourront communiquer à l'homme ce qui doit être communiqué. Il faut que l'homme ait accès à de l'information qui soit libre du rationalisme, qui soit libre de cette limite humaine qui est la raison. Et ce n'est que par le supramental qu'on a accès à cette dimension de la pensée créative, de l'esprit, qui nous permet de comprendre des choses au-delà des sens. On doit avoir accès à de l'information qui provient d'un plan qui n'est pas limité par les sens. Sans cela, l'homme ne pourra jamais comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe de l'autre côté.
Le poisson sous le bord de l'aquarium, il doit découvrir qu'à l'extérieur de la vitre, il y a tout un univers. Et bien voilà.
Sans ça, on demeure des poissons.
Ma question, à savoir, l'âme s'incarne dans le corps humain. L'âme prend possession du corps, le souffle de Dieu. À quel moment?
L'âme devient active dans le corps humain. Lorsque le corps humain commence à respirer. Le phénomène de respiration, c'est un phénomène animique. C'est l'âme qui donne au corps humain le pouvoir de respirer. Quand le corps humain respire, par les poumons, c'est l'âme qui fonctionne. Le phénomène de respiration est directement lié à l'énergie de l'âme. Et tant que l'âme est présente, le pouvoir de respirer existe. Lorsque le pouvoir de respirer cesse, l'âme se retire.
L'âme vient d'où?
L'âme vient de ce que les gens appellent un plan. Mais je vais changer le mot plan. L'âme vient d'un corridor temporel. L'âme évolue dans un corridor temporel qui est totalement isolé de l'espace. Et c'est dans ce corridor temporel-là que l'âme apprend à comprendre toutes ses expériences. Et au cours de son évolution dans ce corridor temporel, elle a accès à toute la mémoire des expériences de l'ego. De sorte que la mémoire de l'âme et l'évolution de l'âme sont liées l'un à l'autre. Si vous demandez à une personne qu'est-ce que c'est être veut dire être conscient de la mémoire de l'ego. Plus un être est conscient de la mémoire de l'ego, plus l'âme est capable de se rappeler ce qu'elle est. Plus elle est capable de se rappeler ce qu'elle est, plus elle est capable de manifester ce qu'elle est. dans un instantané.
Est-ce que c'est l'âme qui construit le corps ou l'âme est soumise à une création matérielle quelconque?
Non, ce n'est pas l'âme qui construit le corps, c'est l'ego qui construit le corps. C'est la mémoire qui construit le corps. Le corps est construit en relation avec la mémoire. Si la mémoire est vaste, si l'expérience de ce qu'on appelle l'ego est vaste, plus la perfection du corps est grande et plus l'âme peut évoluer dans un corps bien réfléchi. Un corps bien réfléchi, c'est un corps qui possède toutes les nuances de la lumière dans ses constructions. Que ce soit le corps matériel, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. La construction de ces corps, de ces principes, sont directement liés à l'évolution de l'ego, la mémoire de l'ego.
L'âme a-t-elle le choix du corps dans lequel elle descend, dans lequel elle vit?
L'âme est totalement libre de consentir à l'incarnation. Mais l'ego, lorsqu'il a créé, qu'il a terminé la construction des corps, est obligé de remettre à l'âme le pouvoir de pénétration. C'est l'ego qui donne à l'âme le pouvoir de pénétration dans la matière. Parce que l'ego est la mémoire de l'âme. Et si la mémoire de l'âme est suffisamment développée pour qu'elle coïncide avec un plan de vie qui peut être ajusté à la constitution des corps, à ce moment-là, l'âme entre automatiquement dans la matière.
Il m'apparaît, d'après vos propos, que l'âme est soumise à tel ou tel corps. Mais est-ce que l'âme est quand même libre de choisir tel ou tel corps précisément?
Je viens d'expliquer que lorsque les corps sont développés, lorsque l'ego a décidé de s'incarner, de réincarner, à ce moment-là, l'âme automatiquement est attirée. Ce n'est jamais l'âme qui décide si elle va incarner ou non. C'est l'ego qui possède la qualification de construction ou qui ne la possède pas. S'il la possède, à ce moment-là, l'âme peut s'incarner. Mais l'âme s'incarne en relation avec les lois de métacarpation. Et les lois de métacarpation sont des lois qui font que toute âme bien formée dépend de corps bien formé. Toute âme mal formée dépend de corps mal formé. Autrement dit, il y a une relation entre la formation des corps et la formation de l'âme. Et si les corps sont formés à la hauteur des conditions intégrales dans l'évolution de l'âme, à ce moment-là, l'âme s'incarne.
Dans la Bible, on a un passage où Jésus-Christ est mis en présence d'un aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle. Et on lui dit, est-ce que c'est l'âme de cet homme qui l'a rendu aveugle, ou est-ce que ce sont ses parents à cet homme qui ont fait que leur enfant est devenu aveugle? Est-ce que la cause donc est l'homme qui s'est incarné aveugle, ou est-ce que la cause provient des antécédents, les parents? Et le Christ répond à cela, en fin de compte, l'aveugle est là pour témoigner des pouvoirs de Dieu, des puissances de Dieu. Devant cette attitude, est-ce que chaque personne qui est infirme reflète par elle-même son ego directement et les conséquences seraient graves? Ce serait dire qu'automatiquement, une personne qui est infirme est une personne aussi infirme sur le plan de l'âme.
Toute infirmité à la naissance réfléchit la mémoire de l'ego. Et la mémoire de l'ego, qui est à la base de la construction des corps, est directement responsable pour la construction de ces corps. Ce que vous appelez le karma, les actions antécédentes à la vie matérielle, font partie de la mémoire de l'ego. Alors, si un ego, selon sa mémoire, selon son expérience, doit construire un corps de telle ou telle proportion avec le matériel qu'il possède, dans la vie qui viendra, ce corps sera construit suivant les proportions qui existent sur le plan de sa construction.
Le prix Nobel de médecine de cette année est celui qui a réussi à détecter que dans la cellule de chaque être humain, il y a tout le processus vital qui permet déjà de détecter si cet être sera victime de telle ou telle maladie au cours de sa vie, ou plutôt prédisposé à telle ou telle maladie dans sa vie. Est-ce que déjà, donc, une personne qui naît en santé, semble-t-il, extérieurement, mais qui, à cause de son processus cellulaire, c'est ce qu'on a découvert cette année en médecine, croit qu'inévitablement il tombera malade autour de 20 ans, autour de 45 ans, de telle ou telle maladie, c'est prévisible cellulairement parlant. Mais alors, est-ce que la science qui va se développer va réussir à remédier à toutes les maladies, à toutes les infirmités? Les aveugles le verront, les sourds l'entendront, dit-on à la fin des temps. Est-ce que finalement, on ne rétablira pas, grâce à la science, les égaux qui se sont incarnés dans des corps défectueux au départ?
Oui, parce que la science ne sera plus matérialiste. Lorsque la science ne sera plus matérialiste, à ce moment-là, la science, c'est-à-dire la conscience humaine créative, aura le pouvoir de rétablir l'ordre dans le désordre. Mais l'aspect génétique, physiologique d'un être qui vient au monde est déjà prédéterminé dans la construction des corps au niveau éthérique par l'ego. Tout ce qui existe au niveau cellulaire est déjà prédéterminé au niveau éthérique par l'ego. Et si un ego doit vivre une expérience dans tel corps ou dans telle famille, cette expérience fait partie de son plan de vie et le choix d'incarnation sera en relation avec ces données. Mais il y a toujours, avant la matière, l'esprit. Et c'est l'esprit qui conditionne la matière.
C'est drôle parce que dans la tradition juive, la Kabbale nous laisse entendre l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a toujours une matière informe, une matière inanimée qui recevra le fluide si Dieu le veut bien. Le golem qui est la dent qui était faite d'argile au départ, qui n'avait pas encore reçu le souffle divin, qui finalement n'était qu'une matière inconsciente. On a, dit-on, chacun en nous un golem qui sera réveillé par le souffle divin.
Il faut comprendre la signification occulte du golem. Le golem veut dire deux choses. Il veut dire la matière soumise aux lois de la lumière, mais qui n'est pas formée dans le cadre des lois de la lumière, et la matière non soumise aux lois de la lumière qui devra être formée par les lois de la lumière. Alors, tous les hommes ont en eux un golem, c'est-à-dire que tous les hommes possèdent en eux un pouvoir sur la matière, et ce pouvoir sur la matière sera manifesté lorsque l'homme sera dans la lumière. Il ne faut jamais prendre des textes ésotériques d'une façon littéraire. Il faut toujours comprendre, par le biais de l'information interne, ce que ces textes veulent dire. Parce que l'information de ces textes vient déjà de l'intérieur. Alors, on doit retourner à l'intérieur pour avoir la clé à la compréhension de ces textes. Sans ça, ça devient de la philosophie ésotérique. Et la philosophie ésotérique, ça ne mène nulle part. Ça aide à meubler l'esprit, mais ça ne dégage pas l'homme des voiles qui cachent les mystères de la création.
Une fois que l'homme s'est incarné dans un corps et qu'il retourne en haut, y a-t-il finalement l'enfer, le purgatoire et le ciel?
L'enfer, ce que les gens appellent l'enfer, c'est une condition de vie dans un emprisonnement temporel où très peu de lumière existe. L'homme étant pris dans ses conditions, prisonnier de ses conditions, l'âme souffre parce que l'âme n'est pas capable d'avoir accès à sa mémoire. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est l'incapacité de l'âme d'avoir accès à sa mémoire. Le purgatoire, c'est un autre aspect de l'évolution sur les plans. Le purgatoire, c'est une période pendant laquelle une personne qui meurt doit se réajuster à son évolution sur les plans invisibles. Alors, c'est une période d'ajustement qui peut durer un certain temps, mais qui est relativement court, et où l'âme doit attendre avant d'avoir accès à sa mémoire. Et lorsque l'âme a accès totalement à sa mémoire, à ce moment-là, elle se situe dans son temporel, et à ce moment-là, elle n'a qu'à attendre l'évolution de l'ego, la décision de l'ego de s'incarner. Et elle, pendant ce temps-là, vit le niveau de sa béatitude selon la mémoire
de l'ego.
L'âme est totalement passive dans l'évolution. L'ego est actif, mais l'âme est passive. Elle est en contemplation. Les gens pensent que c'est l'âme qui s'incarne. Il faut faire attention. C'est l'ego qui décide l'incarnation. L'âme suit. L'ego crée les corps, l'âme incarne. L'ego se retire, l'âme retourne à son plan de temporalité et elle retourne à la contemplation. C'est pour ça que le phénomène qui intéresse la parapsychologie, le phénomène des poltergeists, les images, les fantômes, ce ne sont pas des âmes. Ces phénomènes-là sont des mémoires de l'âme. Ce sont des mémoires qui sont projetées, qui sont activées sur un plan matériel assez dense pour que l'œil matériel ou la caméra puisse les photographier. C'est la mémoire que l'on photographie. Ce n'est pas l'âme. L'âme ne se photographie pas, et d'ailleurs, l'homme n'aura jamais de science de l'âme. La science dans le cosmos s'arrêtera à l'âme. Il n'y aura jamais dans le cosmos, dans l'univers, une science de l'âme. Il y aura une science philosophique de l'âme, une science théologique de l'âme, mais il n'y aura jamais une science matérielle de l'âme, parce que l'âme est totalement en dehors du temps.
Et en soi, en dehors de la forme aussi.
Elle est en dehors du temps, et elle est en dehors de la forme qui est régie par les lois de l'ego. L'âme, elle est contemplative. L'âme, c'est la partie de l'homme qui est la plus près de ce qu'on appelle la divinité.
De la lumière.
De la lumière.
Et cette âme monte vers la lumière ou descend vers les ténèbres?
Cette âme évolue graduellement vers la lumière, lentement ou plus rapidement, suivant que l'ego est soit dans les ténèbres ou tend vers la lumière. Parce que l'ego aussi tend vers la lumière.
Est-ce qu'il peut y avoir destruction de l'âme?
L'âme peut être détruite si elle ne sert pas à l'évolution. Et lorsque l'âme est détruite, elle est passée en jugement. Et ce jugement est établi par les intelligences qui sont en évolution dans les sphères de la lumière. Seulement ces intelligences parfaites ont le pouvoir de détruire une âme. Et la destruction d'une âme se fait d'une façon très simple. Elle est empêchée, retirée du phénomène de contemplation. Elle ne peut plus contempler. Lorsque l'âme ne peut plus contempler, il se divise en elle tous les rayonnements de feu qui font son essence, et à ce moment-là, elle retourne à l'énergie primordiale. Il n'y a plus de forme. Et lorsque l'âme n'a plus de forme, elle est inexistante. Elle est incapable de se servir de la mémoire de l'ego. Mais l'âme sera détruite, mais on conservera la mémoire de l'ego. Parce que la mémoire servira à la construction d'autres corps dans l'évolution. Le phénomène de l'âme est un phénomène extrêmement voilé. Et il est voilé parce qu'on ne peut pas penser à ce phénomène. Il faut que ce phénomène nous soit expliqué directement, et ensuite, on peut y réfléchir. Mais dans la présence de la compréhension, dans l'instantanéité de la compréhension, il ne peut y avoir qu'une forme d'énergie intelligente qui éclaire l'homme, et c'est le supramental. Ce sont les forces de la lumière. Et à ce moment-là, l'homme peut comprendre ces choses. Mais il ne les comprend pas avec son esprit. Il les comprend dans ce sens qu'il est activé au niveau mental pour en recevoir l'information.